Et on rejoint Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
La bibliothèque du Parlement retire des documents uniquement en anglais.
C'est un professeur, un chercheur en histoire qui faisait des recherches à propos des premiers sénateurs franco-ontariens. Le chercheur s'appelle Yves Y. Pelletier. Il s'est rendu compte que le Sénat, entre 1874 et 1896, avait transcrit ses débats seulement en anglais. Ça respecte même pas la loi constitutionnelle de 1867. Là. Pas besoin d'attendre les lois modernes pour dire que ça ne respectait pas ce qu'on avait décidé. Il a donc déposé une plainte au commissariat aux langues officielles. Ces documents-là sont considérés comme une communication publique parce qu'ils étaient publiés sur le site de la Bibliothèque du Parlement. Donc, ils doivent être, selon la loi, dans les deux langues. Au lieu de penser de les traduire, on a retiré les documents du site. C'est la bibliothèque qui a pris cette décision-là. Je vous souligne qu'on peut y accéder quand même, il faut juste en faire la demande, mais ça fait que ce n'est plus des documents nécessairement publics. C'est la deuxième fois qu'une institution fédérale prend une décision de cette sorte-là. La première fois, c'était la Cour suprême à qui le commissaire aux langues officielles avait fait remarquer que les 6000 jugements rendus avant 1970 et qui sont majoritairement en anglais devraient être traduits pour respecter la loi aussi. La Cour suprême a décidé de retirer des documents aussi pour respecter la loi, mais elle a quand même pris des démarches. Ils sont en train de traduire 24 jugements qui ont été jugés plus importants pour la jurisprudence. La bibliothèque, elle, n'a pas offert de traduire des documents parce qu'elle indique que, c'est la réponse qu'ils nous ont donnée, que c'est le Sénat qui a le pouvoir de le faire parce que ces documents, la bibliothèque est seulement le dépositaire des archives. Donc, c'était au Sénat de prendre la décision. Le Sénat ne nous a pas répondu sur cette question-là. Ce que nous dit une professeure en droit de l'Université d'Ottawa, Anne Lévesque, c'est que ce qu'on peut appeler, ce genre de décision-là du nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'au lieu de donner le même droit à tout le monde, parce que c'est trop inconvénient ou parce que ça peut coûter trop cher, on enlève le droit à la majorité pour respecter l'esprit de la loi. Celui qui a fait la plainte, Yves Pelletier, a déposé une nouvelle plainte, cette fois-ci à propos du bilinguisme au Sénat et du Parlement. On va attendre de voir les résultats de cette enquête.
Ah bon, je connaissais Yves P. Pelletier, mais pas Yves Y. Pelletier.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mentionné,
oui, faire la distinction. Une recherche sur le sentiment d'aliénation entre les régions rurales et urbaines de la Nouvelle-Écosse, c'est dans le Courrier.
Oui, dans le cadre d'une récente tournée provinciale, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse a constaté qu'il y a un sentiment d'aliénation au sein de la communauté francophone de la province. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a les gens des milieux ruraux, des milieux urbains, les nouveaux arrivants et les membres de la communauté acadienne depuis longue date ne semblent pas nécessairement faire partie d'un tout, de faire partie de la même communauté francophone. Il y a un groupe de chercheurs de l'Université Sainte-Anne qui veut mieux comprendre ce qui se passe. Donc, comment on peut améliorer les choses et, effectivement, voir ce qu'on peut, à quoi pourrait ressembler l'Acadie de la Nouvelle-Écosse dans 10 ou 15 ans. On va le faire en s'inspirant des consultations qui ont déjà été effectuées, là, qui ont permis de dégager ce premier constat-là. Mais aussi, il va y avoir d'autres, il y a un sondage qui est déjà disponible, il va y avoir d'autres consultations au cours de l'été. Ce qu'on espère, c'est d'avoir un rapport préliminaire à cet automne. Puis, à partir de ce rapport-là, il y aura un rassemblement d'une centaine de personnes pour traiter de la question.
Dans Le goût de vivre, il est question de la disponibilité des sages-femmes francophones qui restent fragiles.
Oui, on souligne que les sages-femmes francophones dans cette région-là, là, la région de Penetanguishene, qui est au nord de Toronto, sur le bord de la baie Georgienne et du lac Huron, il y a une offre de services en français, il y a des sages-femmes francophones, mais l'offre est fragile. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, bien, il n'y a plus de formation pour des sages-femmes en français en Ontario depuis que l'Université Laurentienne a coupé ce programme-là en 2021 dans sa crise financière. Ce sont aussi des conditions de travail qui sont difficiles parce que il faut être prêt à toute heure du jour ou de la nuit au cas où une de nos patientes est prête à coucher. Puis on dit aussi que les conditions de travail et le salaire en Ontario seraient plus bas que dans d'autres provinces du Canada. Il y a une sage-femme à qui le goût de vivre a parlé, qui, elle, voit plusieurs de ses collègues quitter le métier ou partir dans une autre province pour des meilleures conditions. Puis les sages-femmes de l'Ontario se sont même rendues jusqu'au tribunal des droits de la personne pour faire reconnaître qu'elles ne sont pas suffisamment payées. Elles ont été reconnues par la Cour, mais les choses n'ont toujours pas changé. Le gouvernement ne bouge pas. Pourtant, c'est un service apprécié. Accoucher dans sa langue, c'est presque un service essentiel là, parce que c'est un soin de santé et on sait que être revient en santé dans sa langue pour des services de santé, c'est important. Il y a des parents aussi qui se rendent compte qu'ils veulent utiliser plus de français, surtout à l'approche de la naissance d'un enfant. Puis parfois, d'avoir une sage-femme en français, bien, ça permet de se remettre dans le bain puis de reparler en français. Donc, le besoin est là. Ce qu'on espère, c'est qu'il va pouvoir rester et dans cette région-là et dans d'autres régions de l'Ontario aussi.
Par ailleurs, dans la source, un titre qui se lit comme suit, « Vers des soins en français pour les personnes trans, non-binaires et bispirituelles dans l'Ouest canadien ».
Après qu'il soit rendu compte qu'il y avait un écart entre les connaissances sur la pluralité des genres des prestataires de services de santé en anglais comparé à ceux des services en français, le comité franco-queer de l'Ouest a créé la formation Transéquité. Cette formation-là, bien, c'est une formation volontaire à travers laquelle les prestataires de services francophones apprennent le vocabulaire et acquièrent des connaissances nécessaires pour rendre leur pratique inclusive pour les différentes identités de genre. Comme éviter des mots genrés, là, le féminin et le masculin, quand c'est adéquat. Le comité franco-queer de l'Ouest note que c'est important, lors de la première visite, que les personnes trans et queer se sentent à l'aise et capables de se confier aux médecins sans être jugés. Puis ça peut avoir un effet sur l'affirmation de genre elle-même et sur le suivi médical à long terme. Donc, on a créé cette formation-là qui donne une certification officielle pour ceux qui la suivent.
La francophonie cherche sa place dans le développement des territoires du Nord-Ouest.
Les francophones sont souvent oubliés quand les politiciens établissent des politiques publiques ou des règlements. Puis les organismes francophones des territoires du Nord-Ouest ont décidé de un peu prendre des choses en main et de rencontrer les députés des territoires. Comme le dit la Fédération franco-ténoise, eux-mêmes, ils ont plus l'habitude de travailler avec les ministres et les fonctionnaires et parfois, un peu aussi de la faute de la francophonie, on oublie de parler aux députés eux-mêmes. L'objectif de la rencontre, c'était pas de faire des demandes, c'était juste d'expliquer aux députés c'était quoi les défis rencontrés par la francophonie, puis des projets qui étaient en cours. On s'attend entre autres à une augmentation de l'immigration francophone dans les territoires du Nord-Ouest, pour donc prévoir la mise en place de mesures adéquates pour l'accueil. Par exemple, les deux écoles les plus importantes du territoire sont déjà à pleine capacité. Donc, peut-être faudra en construire d'autres ou les agrandir. Il faudra aussi plus de place pour les immigrants dans la vie communautaire, culturelle, puis un meilleur accès à l'information en français. La rencontre a été positive. Les députés ont appris plein de choses qui sont dites et que, dont des projets dont ils ignoraient l'existence.
Et on termine avec des nouvelles concernant l'Université de Sudbury. Ce sont des nouvelles positives.
Mm-hmm. Oui, parce que je vous le mentionne rapidement, parce qu'on en a parlé souvent, on l'attend depuis longtemps, mais le nom de l'Université de Sudbury apparaît enfin dans le budget du gouvernement de l'Ontario, qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Avec l'aide du fédéral, l'Ontario va fournir 21,6 millions de dollars à l'Université de Sudbury au cours des trois prochaines années. Je vous rappelle que l'université avait subi un refus en 2023 pour du financement par la province. Après ça, ils ont conclu un partenariat avec l'Université d'Ottawa pour améliorer ses chances, commencer à offrir peut-être des services, trouver une façon d'avancer. Puis d'ailleurs, le financement qui est dans le budget ne fait pas de l'Université de Sudbury un établissement indépendant à part entière parce que le financement passe par l'Université d'Ottawa. Malgré tout, le recteur Serge Miville dit que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à l'université d'atteindre une certaine stabilité pendant trois ans, de voir plus clair et de prévoir et de planifier l'éducation postsecondaire en français dans le nord de l'Ontario.
Nouvelle que vous avez trouvée dans le droit. Julien Caillouette, un grand merci.
Merci.
À la semaine prochaine.